d'une année sans précédent et c'est l'été de l'espoir. Nos entreprises ont été contraintes de se restructurer et sont prêtes à saisir de nouvelles opportunités. Laissez-vous inspirer tout au long de l'été par des intervenants issus du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et de l'économie. Et cette semaine, nous sommes à la boutique galerie de St. Martin's Latham. Bonjour, bienvenue dans Trends Summer Talk pour ce nouveau numéro. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune entrepreneuse inspirante, fondatrice et CEO de Quasidomi, une plateforme e-commerce de produits sains et bio au modèle, vous allez le voir, ultra performant. Et c'est Emna Evrard. Bonjour Emna.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir.
C'est un plaisir de vous accueillir dans ce magnifique cadre. On est entouré d'œuvres d'art aujourd'hui, mais nous allons parler de votre activité, donc de l'e-commerce. On va parler de Quasidomi, de sa jeunesse, de sa fabuleuse ascension. On va aussi revenir sur cette année 2020, de voir ce qui a changé en termes d'organisation, de gestion pour votre entreprise pendant la crise financière. Et puis, on va aussi surtout s'intéresser aux perspectives d'avenir pour Quasidomi. Mais avant toute chose, puisqu'on est dans ce cadre magnifique, j'ai l'habitude de demander à mes invités le rapport qu'ils ont avec l'art. Et puis, vous êtes arrivé ici tout à l'heure en me disant d'emblée que c'était magnifique. Alors, quel est votre rapport avec le monde de l'art et le monde de la culture de manière générale ?
Alors, j'ai un rapport pas aussi puissant que ce que j'aimerais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, lancer sa boîte, etc., ça prend énormément de temps. Donc, je vais de temps en temps à des expositions, je lis de temps en temps des bouquins, etc. Mais c'est clair que j'y accorde pas du tout autant de temps que ce que je voudrais. J'espère que ça changera un petit peu dans le futur. J'ai par contre une sœur qui est architecte et spécialisée en architecture classique, donc tout ce qui est bâtiment traditionnel, etc. Et c'est vrai que depuis qu'elle s'est lancée là-dedans, je regarde les bâtiments et je m'y intéresse davantage, mais j'espère vraiment que c'est quelque chose auquel je pourrais m'intéresser davantage
D'accord.
dans le futur.
Donc ça vous parle donc, et ça provoque chez vous en tout cas de belles émotions. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, s'intéresser à Quasidomi, qui est déjà une belle success story. Mais avant toute chose, Quasidomi, qu'est-ce que ça veut dire ? A priori, trouver un nom pour son entreprise paraît assez simple, or c'est quand même crucial puisqu'il faut se différencier de ses concurrents. Alors pourquoi Quasidomi et qu'est-ce que ça signifie ?
Alors c'est vrai que trouver un nom aujourd'hui, c'est pas facile parce qu'il faut trouver un nom de domaine, donc un nom en .com par exemple qui soit disponible. Quasidomi.com était disponible à l'époque. Il faut que la marque ne soit pas déposée, il faut que ce soit un nom aussi qui veuille dire quelque chose, parce que les gens aiment bien qu'il y ait aussi un petit storytelling, une histoire derrière. Et donc Quasidomi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comme chez soi, et ça vient du latin. Quasi demi, comme à la maison. Et en fait, je suis vraiment partie de la volonté très très forte au début et encore aujourd'hui d'ailleurs, de permettre aux gens en fait, d'avoir confiance, de fermer les yeux sur leurs achats et de rétablir en fait, ce lien de transparence et de confiance avec le consommateur.
C'est vrai, et la confiance est quelque chose vraiment d'essentiel quand on gère une plateforme d'e-commerce.
Exact.
Ok. Alors l'aventure de Quasidomi, elle a démarré en 2016, vous étiez encore sur les bancs de l'université. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un peu sur la genèse de ce projet qui est magnifique et puis aussi nous faire un petit tour d'horizon de l'ADN de Quasidomi, hein, de nous parler aussi de ses valeurs et de ses missions.
Ouais. Alors Quasidomi, c'est un projet qui trotte dans ma tête depuis toute petite en fait. Moi, pour la petite histoire, je suis née dans une famille où mes deux parents sont médecins et mon père est spécialisé dans tout ce qui a trait à la nutrition et la prévention. Et donc c'est vrai que depuis très jeune en fait, je regarde les étiquettes de tout ce que je consomme. Je vais pas dans n'importe quel magasin. Je suis formée sur des sujets propres à la nutrition, à l'environnement, etc. Et en fait, dès que j'ai eu l'âge suffisant pour j'ai commencé à vraiment être révoltée en fait par la manière et l'information qui était communiquée aux consommateurs. Donc je voyais mes amis autour de moi, mes camarades de classe, etc., consommer des produits soi-disant bons, soi-disant bio, soi-disant avec un packaging vert, etc. Enfin, tout ce qui est greenwashing aujourd'hui est assez connu. Mais derrière, sans aucune compréhension ou sans aucune compétence ou connaissance en fait sur qu'est-ce que ces ingrédients, qu'est-ce que ce produit pouvait avoir comme impact, que ce soit sur sa santé ou sur sa planète. Et donc j'ai commencé des études dans une école de commerce à Bruxelles en me disant je veux pouvoir avoir le bagage nécessaire pour lancer un magasin où on peut fermer les yeux sur ses achats d'achat où on sélectionnerait en fait chaque produit sur base de sa composition et non pas parce que c'est un produit qui fonctionne bien ou pour le marketing, etc. Vraiment parce qu'il est bon en fait pour le consommateur. Et donc aujourd'hui, la mission de Casidomi, c'est d'accélérer la transition vers des meilleurs modes de consommation, que ce soit justement pour la santé ou pour la planète. Et donc on va s'efforcer d'avoir une sélection très très rigoureuse. On s'encadre d'ailleurs d'experts pour pouvoir sélectionner chacun des produits. Et donc, on va éviter des ingrédients comme des additifs nocifs, trop de sucre, trop de sel, l'huile de palme, etc. Et aujourd'hui, c'est assez hallucinant de voir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on retrouve dans notre consommation quotidienne. Et quand je dis consommation quotidienne, ce n'est pas juste alimentaire, ça va être aussi les produits avec lesquels on nettoie notre maison, ça va être aussi les cosmétiques, etc., qui sont néfastes pour nous. Et donc voilà un petit peu la genèse du projet et aujourd'hui le positionnement de Casidomi est vraiment sur ces deux piliers qui sont du coup la santé, le bien-être et l'environnement.
D'accord. Alors, il y a bien sûr différents types d'e-commerce. On va reparler de ces produits soins et de ces produits bio que vous commercialisez, parce que le bio, c'est vrai, c'est un label assez vaste et assez large. On va en parler durant cette interview. Donc, vous nous parlez de votre positionnement, votre business model aussi, cette plateforme que vous avez conçue. Est-ce que pour vous, il est aussi plus en phase avec la société actuelle et aussi plus proche de ses consommateurs ?
Alors clairement, et c'est devenu aujourd'hui très important d'être proche des consommateurs, on pourrait croire qu'Internet a éloigné en fait le consommateur du producteur, du fournisseur, etc. Dans un premier temps, mais en fait, aujourd'hui, on voit que le consommateur est à la recherche de plus de transparence, veut connaître quelles sont les valeurs de l'entreprise, veut connaître qui se cache derrière l'entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de boîtes, de start-up, etc., qui parlent de leurs fondateurs, qui mettent en avant leurs fondateurs. C'est parce que les gens ont quand même besoin d'avoir confiance. C'est vrai que l'e-commerce, aller acheter sur un site dont on n'a jamais entendu parler, d'autant plus qu'aujourd'hui, on entend parfois parler de problèmes de fraude, etc. C'est pas évident. Est-ce que le montant qu'on va payer en ligne va réellement servir à quelque chose? Est-ce qu'on va réellement recevoir notre commande, etc.? Donc, c'est hyper important d'aller au-delà de juste proposer des produits, mais aussi d'expliquer justement qui est la boîte, qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça, d'éduquer le consommateur, de lui donner de l'information.
On va en parler, hein, parce que tout ça, c'est une question de marketing, de communication aussi. Mais il y a un aspect très important aussi, c'est cet abonnement que vous avez mis en place. À l'instar de tous les grands noms de l'e-commerce, je n'ai pas besoin de les citer, vous proposez donc un abonnement à vos abonnés qui offre des tarifs très intéressants sur une grande partie de vos produits et aussi de surcroît, en plus, la possibilité de se voir rembourser son abonnement s'il n'a pas été rentabilisé à terme pour toute l'année en fait. Les autres grands noms e-commerce en général se limitent à offrir un abonnement qui se limite simplement au CMD Delivery, donc c'est la livraison dans les 24 heures. Dans quelle mesure cet abonnement est-il destiné à fidéliser votre clientèle et aussi à contribuer à atteindre votre point d'équilibre financier? Est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de cet abonnement?
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en ligne, il y a de plus en plus de concurrence parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'e-commerce. Le Covid n'a fait d'ailleurs qu'accélérer cette tendance vers l'e-commerce. Et donc, comme il y a beaucoup de concurrence, c'est très compliqué d'avoir de la récurrence, donc des clients qui sont fidèles et qui reviennent régulièrement. Pourquoi ? Parce que les gens sautent d'une plateforme à une autre, il y a une promotion sur une plateforme, on va sur celle-ci, et puis c'est sur une autre, et du coup, on va sur l'autre. Donc, c'est vraiment important de loquer le consommateur, en fait, et pour pouvoir le garder, le modèle de l'abonnement de Casidomi a été vraiment un choix très prometteur. Pourquoi ? Parce que donc, l'abonnement, c'est une carte de fidélité qui donne non seulement accès à des réductions, mais qui va aussi donner accès, par exemple, à du contenu privilégié, à des sélections de produits de manière aussi privilégiée. Ça va donner accès à la livraison offerte en point relais à partir d'un certain montant. Ça va aussi donner accès à une plateforme d'avantages chez des marques partenaires qu'on va soutenir, comme par exemple des marques de vêtements qui sont plus durables, locales, etc. Donc il y a toute une panoplie d'avantages. Ça va un petit peu au-delà de juste des réductions. Et nous, ça nous permet en tant que business d'avoir de la récurrence d'achat. Donc ça nous permet en fait d'amortir nos frais marketing sur un montant qui est plus élevé. Là où aujourd'hui, en fait, comme il y a beaucoup de concurrence, les coûts marketing sont aussi élevés pour acquérir un nouveau client parce que chacun, en fait, dans l'e-commerce supermarché, va choisir les mêmes mots-clés. et l'espace disponible d'un point de vue digital est le même. Et donc forcément, comme la demande augmente, eh bien, les prix vont aussi augmenter. Donc c'est vraiment important que chaque consommateur derrière, on puisse en fait s'assurer qu'il y ait une certaine valeur qui soit consommée. Donc ça, c'est la première chose. Et d'un point de vue business, clairement, ben, cette récurrence nous permet, nous, derrière, d'avoir un business qui est rentable plus rapidement que si on avait un modèle uniquement basé sur les marges sur les produits.
D'accord, donc il y a cet aspect de fidélité, les gens reviennent, ils achètent plus et puis le panier moyen aussi augmente.
Oui, tout à fait, c'est vrai que le panier moyen aussi augmente parce que comme les gens ont des réductions chez nous, ils ont tendance à vouloir concentrer en fait tous leurs achats chez Casidemi et pas aller ailleurs dépenser de l'argent inutilement. Donc c'est clair que l'impact est double en fait, fréquence d'achat qui est plus élevée mais aussi panier moyen qui
ils
augmente.
Ils veulent rentabiliser leur abonnement aussi parce que c'est pas évident, ça peut être un inconvénient, enfin une difficulté. D'essayer d'encourager quand même le consommateur.
C'est clair que c'est un business model qui n'est pas super commun. Et c'est vrai que la dépense, l'abonnement annuellement coûte 80 euros, donc c'est une dépense qui est quand même conséquente. Donc nous, la promesse qu'on fait aux consommateurs, c'est de dire, mais si au bout d'une année, vous n'avez pas rentabilisé ces 80 euros, on vous réoffre un nouvel abonnement l'année suivante. Mais aujourd'hui, l'économie moyenne, elle varie entre 300 et 600 euros. Donc, c'est clair que dès qu'on a une famille et qu'on consomme régulièrement ce type de produit, le catalogue est large. Il y a 4000 produits dans plein de catégories différentes. Donc on peut très très rapidement en fait faire de belles économies sur ses commandes.
Il n'y a pas que de la nourriture, il y a d'autres choses.
Il n'y a pas que de la nourriture, non. Il y a aussi des produits d'entretien, des compléments alimentaires, il y a tous les cosmétiques, il y a les dentifrices. Enfin, c'est vraiment super varié. La seule chose qui n'est pas encore proposée, c'est les produits frais.
D'accord, mais on va y venir aussi. Il est clair que la logistique joue un rôle évidemment essentiel dans cette activité. J'ai moi-même été impressionnée par l'excellence dont vous faites preuve dans la livraison de vos produits, que ce soit au niveau du timing ou encore du suivi des commandes, parce que ça aussi, c'est très important, ouais. D'avoir un bon souvenir de la réception de sa commande. Est-ce que vous pourriez nous détailler un peu plus ce qu'il en est de ces aspects logistiques ?
Alors la logistique, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on oublie dans l'e-commerce et en tant que consommateur, en fait, on voit le site, on voit le marketing, mais la logistique, c'est 50% de notre activité aujourd'hui. C'est d'ailleurs 50% de la taille aussi de notre équipe et c'est une équipe qui grandit assez vite parce qu'au plus il y a de commandes, au plus il faut que les effectifs soient nombreux. La logistique, c'est très, très complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte. L'e-commerce, c'est difficilement prévisible. On a aussi de temps en temps des moments comme le Covid où il y a un événement qui était imprévu et boum, tout d'un coup, on fait face à des gros pics de vente. Donc, ce n'est pas facile d'aller prévoir quels vont être les besoins en termes de logistique auxquels on va devoir répondre en fait dans le futur. Et donc, il y a la question de recruter et d'avoir en permanence le bon nombre de personnes. Il y a des moments qui sont calmes, des moments qui sont moins calmes. Là, on est en plein été. Mm-hmm. C'est clair que les ventes sont plus basses, il fait beau, les gens sont en vacances, surtout après toute cette période où on a tous dû rester chez nous. Donc, les ventes sont plus calmes. Mais par contre, nous, on a recruté un nombre de personnes qu'on ne va pas diminuer sous prétexte que tout d'un coup, pendant l'été, c'est plus calme. Il y a deux mois où les gens se tournent un peu plus les pouces que pendant le reste de l'année. Donc, il y a les forecasts en termes humains, de ressources humaines. Il y a tout ce qui est approvisionnement qui est aussi un gros challenge. Quels vont être les produits qui vont être consommés quand ? Il y a des produits qui sont saisonniers, il y a des produits où tout d'un coup, parce que quelqu'un en parle à la radio, boum, il y a un pic de vente et nous, derrière, ce n'était pas un produit qui se vendait très souvent et donc on n'avait pas
prévu l'avoir. Ouais.
Puis il y a eu le Covid, où le Covid, tout d'un coup, c'était la guerre au niveau des stocks au début quand il y a eu la première annonce. Clairement, on ne s'attendait pas à ce que certains produits fonctionnent aussi bien comme les produits, par exemple, les farines, les conserves, les produits d'épilation aussi, parce que tous les centres d'esthétique, etc., étaient fermés. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des choses où c'était extrêmement compliqué.
C'est assez inattendu, c'est vrai.
Inattendu, oui, oui. Et puis, la dernière chose, c'est tout ce qui est transport. C'est hyper important aujourd'hui de choisir, en fait, les bons transporteurs parce que...
Donc, vous sous-traitez ? Vous avez des partenaires logisticiens ?
On sous-traite et c'est super important de s'associer au bon transporteur parce que c'est la seule partie de la chaîne en fait qu'on contrôle pas. Nous, on peut contrôler la commande, on peut contrôler l'assortiment catalogue, le site, le service client, mais par contre, le transporteur, on ne peut pas lui dire exactement ce qu'il doit faire. C'est en général des grosses sociétés de transport qui ont des milliers et des milliers d'employés. Et si un colis n'a pas été livré correctement ou que le transporteur l'a fait tomber ou quoi, ce n'est pas notre responsabilité. Mais par contre, c'est clair que le consommateur, il voit ça comme le service Casidemi.
Évidemment.
Et donc, vraiment très, très important d'investir dans le bon transporteur. Nous, on travaille avec des transporteurs qui nous coûtent plus cher que d'autres pour proposer la meilleure qualité. Mais c'est un choix qu'on fait parce qu'on a envie que nos consommateurs, à nouveau, nous fassent confiance et puissent se dire, bon, ben, je sais que j'aurai un service impeccable du côté de Casidomi.
Et qui reste fidèle. Alors, le marketing et la communication, on l'a dit, étaient essentiels. Quels sont les outils que vous utilisez, les méthodes marketing? Je sais que vous communiquez sur Facebook, sur Instagram. J'ai vu qu'il y avait aussi sur votre site des newsletters. Comment est-ce que vous organisez tout ça?
Alors, il y a beaucoup de canaux qu'on utilise parce qu'on ne touche pas les mêmes personnes avec les mêmes canaux. Typiquement, Facebook, on va pouvoir toucher une population qui est un peu plus âgée qu'Instagram, qui est très jeune. Les newsletters, ça touche des personnes qui sont très intéressées parce que, a priori, très certainement, même c'est elles-mêmes, c'est ces personnes qui nous ont donné leur adresse email. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà une marque d'intérêt très forte. Donc, c'est beaucoup plus facile de convertir quelqu'un en envoyant une newsletter.
Parce que c'est très personnalisé.
Parce que c'est personnalisé, mais aussi parce que c'est la personne qui a donné son adresse email. Là où c'est sur Facebook, quand on voit une publicité passer, on ne le choisit pas en fait. Ça se fait sur base des intérêts, etc. Mais moi, dans beaucoup de cas, il y a certaines pubs où je m'en passe très volontiers, mais pourtant je les vois quand même. Et donc voilà, c'est vraiment important en tant qu'e-commerce en fait d'avoir différents canaux. On va aussi utiliser certains canaux qui ne sont pas digitaux, comme la presse, comme qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre, le flyering, tout ce qui est événementiel. Bon, on n'a pas pu le faire malheureusement beaucoup ces derniers mois, mais voilà, c'est des manières d'aller toucher aussi des consommateurs qui sont intéressantes. Aujourd'hui, à nouveau, tout ce qui est canaux digital, comme je le mentionnais, ça devient très compliqué d'aller faire des campagnes qui sont profitables. Et donc, on va essayer de travailler beaucoup plus sur tout ce qui est contenu, information du consommateur. Et quand je dis contenu, c'est contenu majoritairement non payant. Donc, ça va être animation sur les réseaux sociaux. Là, ça coûte rien, en fait, de faire un post sur Instagram ou sur Facebook.
Vous faites ça tous les jours,
hein? On fait ça tous les jours, ouais. Envoyer une newsletter, ça coupe le temps de la personne qui est dans l'équipe. Mais à nouveau, il ne faut pas payer pour chaque newsletter qui est envoyé. Tout ce qui est contenu éducatif aussi. Donc, on a un blog sur lequel il y a plus de 1000 articles différents. Et ces articles sont référencés sur Google. Donc, si quelqu'un aujourd'hui cherche, je ne sais pas moi, la différence entre les pâtes blanches et les pâtes complètes, ben, il peut tomber sur Casidomi. Et ça, c'est aussi gratuit. Et donc, il faut de plus en plus être créatif, en fait, et réfléchir à quelles sont les meilleures options et les options aussi les plus rentables. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'e-commerce qui se crée. Mais derrière, quand on regarde la durée de vie, en fait, des sites e-commerce, c'est assez effarant de voir
parce qu'il n'y a pas toute cette communauté autour qui a pu être créée.
Ouais.
J'aimerais qu'on voit un peu la situation maintenant dans votre entreprise. Comment se porte Casidomi aujourd'hui après cette crise, après cette crise sanitaire vraiment sans ampleur?
Alors, la boîte se porte, elle a bien grandi. On a eu de la chance, l'équipe compte aujourd'hui, je pense, près d'une septantaine de personnes.
Donc, oui. c'est clair. En deux ans, vous êtes passé de 15 à 75 personnes.
C'est clair que ça a été un gros challenge, en fait, parce qu'il a fallu recruter très rapidement. Les chiffres ont aussi bien évolué. Ça a été quand même une période pas si facile. C'est vrai que quand on voit les chiffres, on se dit « Ah, c'est génial, Casidomi
grandit, etc. » Et les chiffres, quand vous tournez autour de 8 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires.
Oui, ça, c'est le chiffre d'affaires 2020. Mm-hmm. Et aujourd'hui, la boîte continue à bien grandir. Mais ça a été challenging pendant cette période aussi, parce que comme je le mentionnais, il y avait des soucis d'approvisionnement, il y avait beaucoup d'absentéisme, beaucoup plus que d'habitude.
Alors ça on va y venir. Ouais. J'ai quand même encore envie d'approfondir cette croissance qui est vraiment exceptionnelle chez Casidomi. Il est évident, c'est vrai, que la crise du Covid a eu un impact considérable sur votre entreprise de par son positionnement, hein, parce que voilà, vous reposez sur l'e-commerce, sur la santé, sur le bio. Et donc forcément, la croissance a épousé un peu la conjoncture quand même. Mais dans quelle mesure on peut partir du principe que cette croissance est de plus structurelle et qu'elle va se maintenir à l'avenir, qu'elle va même s'accélérer indépendamment de l'évolution de cette crise sanitaire?
Alors, c'est clair que aujourd'hui, les consommateurs ont pris conscience du fait qu'il fallait que leur consommation change, parce qu'ils ont pris le temps, parce qu'ils ont eu l'occasion de plus s'informer aussi durant cette période. Et donc, je pense que le marché du bio et les produits sains de manière générale va continuer à grandir très fortement. Je pense que le bio va devenir la norme aussi prochainement, parce que aujourd'hui, c'est quelque chose que les consommateurs demandent. Et donc, tout ce qui est plateforme de produits plus durables, plus bio, plus écologiques, plus biologiques, etc., va continuer à être très porteur.
Alors, on va quand même se plonger sur votre développement, votre expansion encore. Et plus précisément, on va parler de votre catalogue, parce que vous proposez, à côté des produits tiers, des produits de la marque Casidomi. Vous avez créé votre propre branding. Ça représente encore qu'une petite partie de votre chiffre d'affaires. Mais dans quelle mesure vous avez l'intention d'augmenter la part de cette marque propre dans votre chiffre d'affaires?
Alors, elle va continuer à augmenter, mais moins que ce qu'on pourrait le croire, parce qu'on veut continuer en fait à proposer toutes des marques qui apportent une vraie innovation au catalogue. La marque propre, elle a en fait vocation à remplacer des produits qu'on peut appeler commodities, en fait des produits de la vie de tous les jours, comme des pâtes, de la sauce tomate, ce genre de produits que tout le monde a dans ses placards. Elle n'a pas vocation à aller faire des produits super novateurs, des produits avec des spécificités, etc. Et donc, on remplace des produits pour les marques pour lesquels les clients sont pas très sensibles à la marque en fait, parce que c'est vrai qu'entre par exemple le riz X et le riz Y, la plupart des gens connaissent même pas la marque du riz qu'ils vont acheter, ou ça, sont assez indifférents là-dessus. Et donc nous, on va développer ces produits-là en marque propre. On va avoir la possibilité, comme on travaille en direct avec le producteur, d'avoir non seulement un impact sur la composition. Donc typiquement, on va, pendant le Covid, on a développé des conserves parce que tout le monde voulait des conserves à stocker chez soi. On a développé des conserves dans lesquelles on a dit, bon, on supprime le sel, alors que dans toutes les conserves qu'on retrouve sur le marché, il y a du sel comme conservateur. Et ça, c'est génial parce que du sel, on en consomme déjà trop, et donc on a un impact sur la santé des gens en améliorant en fait les produits qu'ils consomment le plus régulièrement. Puis l'autre chose, c'est le prix. Comme on travaille en direct avec le producteur, on supprime tous les intermédiaires. Chacun de ces intermédiaires, en général, va se rémunérer. Donc c'est clair qu'à la fin, c'est qui en paye un peu le prix, c'est le consommateur. Et donc ce sont des produits qu'on va réussir, du coup, en travaillant directement avec le producteur, à proposer un prix plus abordable
aux consommateurs. Tout à fait, et avec des volumes aussi. Alors, comme beaucoup d'entreprises de votre secteur, qui est forcément en très forte croissance, vous avez aussi décidé de faire appel à des fonds externes pour continuer à grandir. Alors, qui sont les investisseurs que vous avez approchés? Et puis, comment est-ce que vous allez affecter, au fond, cet argent que vous avez maintenant, ce cash que vous avez pu accumuler? Je crois que c'est une levée de fonds de 6 millions d'euros.
Oui. Alors, on avait déjà en fait des investisseurs privés qui avaient investi assez tôt dans Casidomi et qui sont toujours pour la plupart présents aujourd'hui dans le capital, qui nous conseillent. On a beaucoup de chance parce qu'ils nous conseillent de manière active. Ce sont tous des entrepreneurs qui, du coup, ont un peu une compréhension de terrain et ont des conseils qui sont super, super avisés. Et alors, en décembre dernier, on a eu un fonds qui s'appelle IFJ, Invest for Jobs, un fonds belge qui a investi dans le capital et qui, du coup, maintenant nous accompagne également. Ces fonds sont destinés à quoi? L'internationalisation de Casidomi. Aujourd'hui, on est très présent sur le marché belge et le marché français. Et quand je dis le marché belge, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, on est très présent sur la partie francophone. Donc, à partir du mois de janvier dernier, on a commencé à démarcher le marché néerlandophone en Belgique et la Hollande. Mais l'idée, c'est d'aller développer, d'aller répliquer en fait le modèle dans d'autres pays en Europe très prochainement. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est technologie et personnalisation. Donc on a la volonté très ferme de proposer une expérience qui est vraiment dédiée au consommateur, personnalisée en fonction de ses choix, de ses besoins, du nombre de personnes dans sa famille, de ses intolérances, de ses soucis de santé, etc., pour qu'il ait de nouveau accès à des produits vraiment qui sont vraiment adaptés en fait à ses besoins. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Troisième sujet, c'est tout ce qui est logistique, automatisation, etc. L'idée, c'est de pouvoir forcément traiter un maximum de commandes le plus rapidement possible. Et pour ça, il y a certaines choses qui peuvent être automatisées.
Okay. Donc voilà. Donc renforcer votre plateforme logistique, investir à l'international. La France, c'est vrai, représente, je crois, 80% de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui explique cet engouement du marché français pour Casidomi? J'imagine que dans un pays où le taux de pénétration, d'ailleurs, de l'e-commerce est plus important que chez nous, il doit y avoir aussi des e-commerce spécialisés dans les produits bio, les produits sains. Qu'est-ce qui fait que le marché français a tellement d'engouement pour Casidomi?
Mais je pense que la première chose à faire, c'est de regarder la taille du marché francophone. En France, il y a 70 millions de personnes qu'on peut toucher. En Belgique, il y a la Flandre plus la partie la Wallonie et Bruxelles. On touche environ 5 millions de personnes. si on communique en français, Casidomi a communiqué en français jusqu'au mois de janvier uniquement. Donc c'est clair que la taille du marché est beaucoup plus importante, ce qui fait que on arrive à toucher plus de monde. Aujourd'hui, la Belgique a grandi, la part du marché de Casidomi sur le marché belge est en train de grandir, notamment de par le fait qu'on touche aussi la Flandre. Comme vous le mentionniez, le taux de pénétration de l'e-commerce est meilleur chez nos amis les Français. Ils sont plus digitaux, ils ont plus l'habitude de commander en ligne. Ils ont plus confiance aussi. Il y a des études qui, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des études qui indiquent que le Belge est beaucoup plus réticent en fait à donner ses coordonnées bancaires en ligne versus le Français. Et c'est marrant, mais nous, quand on regarde la proportion de personnes qui payent par virement bancaire en Belgique et en France, il y a, je pense, 4 fois plus de Belges qui payent par virement bancaire parce qu'alors ils ne doivent pas donner les coordonnées bancaires sur le site directement. Ils peuvent faire un versement, chose qu'en France c'est presque impensable en fait, tellement les gens sont habitués.
Le site existe en français aujourd'hui, en néerlandais alors, puisque vous attaquez le marché flamand.
Oui, il existe aussi en anglais.
Et en anglais. Et quels sont les prochains marchés alors que vous visez ?
L'Allemagne, a priori, sera le prochain marché, qui est un marché qui est déjà bien éduqué, dans lequel il y a peu encore d'acteurs sur ce segment, sur le même segment que Casidomi. C'est un marché qui est proche aussi. Et donc voilà, ce sera pour 2022 a priori.
D'accord, alors il nous reste peu de temps, alors j'aimerais quand même aborder une ou deux choses avec vous. C'est le point sur l'alimentation, le bio, on disait tout à l'heure, ce label bio est assez vaste. Il n'est pas toujours clair dans l'esprit des consommateurs, ça englobe beaucoup de choses. Quels sont les critères pour obtenir ce label ?
Alors, les critères sont assez flous et vont parfois aussi dépendre du pays. Donc, il faut savoir que le bio belge, c'est pas forcément le même que le bio de Chine ou le bio même de Turquie, etc. Donc, il faut parfois se méfier et aller voir les chartes, en fait, des labels dans les pays en question. Le label bio, par contre, a beaucoup d'avantages. C'est clair qu'il y a moins de pesticides dans les produits qui sont labellisés bio, il y a moins d'additifs, les produits sont souvent moins transformés, ce qui ne veut pas dire que le label bio ne certifie que les produits qui ne sont pas transformés du tout. Les animaux sont en général nourris avec des produits qui sont bio aussi, et le respect justement du bien-être animal, etc., est plus respecté, c'est meilleur pour les sols, les conditions de travail aussi sont en général meilleures, mais par contre, le label bio ne certifie pas toute une série de choses. Le label bio ne certifie pas la qualité du produit, le fait qu'il soit sain. On peut avoir un produit qui est bio, mais qui est bourré de sucre, dans lequel il y a certains additifs qui sont nocifs pour la santé, qui est avec de l'huile de palme, etc. Le label bio non plus ne certifie pas toute une série de critères qui sont plutôt environnementaux, tout ce qui est éthique, etc., non plus, l'aspect local non plus, comme je le mentionnais. Donc voilà, il y a des progrès à faire, très certainement, sur la labellisation. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux labels qui apparaissent et qui sont des labels qui vont un cran plus loin, qui sont plus stricts, en fait, que le label bio, comme Demeter, par exemple, ou Biocohérence. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais que je pensais que le bio allait devenir la norme, parce qu'on va vers ça, on va devoir, en fait, mettre moins de pesticides dans nos sols, que ce soit pour la santé de l'être humain ou pour la planète. Et donc, il y a des labels, je pense, plus stricts qui vont continuer à voir le jour ou qui vont s'affirmer davantage.
D'accord. Et quoi qu'il arrive, le travail que vous faites chez Casidomi, c'est justement de sélectionner les produits qui sont les plus sains. Alors, nous ne sommes toujours pas sortis, évidemment, de cette crise sans précédent. On va quand même pointer un peu la lumière au bout du tunnel. Certains disent qu'un retour à la normale est possible. D'autres pensent que rien ne sera plus jamais comme avant. Dans votre métier, qu'est-ce qui a, selon vous, fondamentalement changé? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant ?
Alors, ce qui ne sera plus jamais comme avant, je pense que c'est le fait que aujourd'hui, il faut être transparent. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait un gros manque de transparence de manière générale de la part de l'industrie, de la part de beaucoup d'autres acteurs, etc. Donc, il faut être plus transparent, il faut donner plus d'informations aux consommateurs. Nous, on a eu beaucoup de chance et je suis contente. Et un des apprentissages personnels que moi, j'en ai fait, c'est qu'on est à l'abri de rien du tout, en fait, et qu'il faut être au taquet, comme on dit, tout le temps et ne pas rester sur ses acquis, en fait. Il faut pouvoir se réinventer rapidement. Il faut essayer de prédire quels sont les risques possibles. C'est un exercice qu'on a fait, d'ailleurs, en équipe pendant le Covid. On s'est dit, bon, mais on a de la chance. On n'est pas affecté par le Covid. Il y a plein de gens autour de nous qui étaient très successful, avec plein de chouettes qualités, et parmi des gens de ma famille d'ailleurs, j'ai eu des personnes pour qui les choses se passaient merveilleusement bien, et puis du jour au lendemain, restaurant fermé, salon aussi, salon business, etc. fermé, donc ça n'a pas été facile. Donc c'est clair que quand on voit ça, on se dit, bon, ben, moi ça pourrait m'arriver. Demain, il y a un hacking informatique, demain, il y a une inondation dans notre entrepôt, c'est des choses qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on prédit tout ça, et comment, si ça nous arrive, on réagit? Et donc, je pense que voilà, ça a été un bon apprentissage pour nous aussi en tant qu'équipe. Et je pense que c'est un bon apprentissage pour beaucoup de gens autour de nous également.
Et pour terminer, Emna, sur une note positive, vous savez, cette émission est dédiée à la positivité, à la reprise économique, à l'espoir. Quels sont les atouts qu'on a à Bruxelles pour lancer son entreprise? Vous pensez qu'on a tout ce qu'il faut à Bruxelles pour lancer son business?
Alors, je vais commencer par du positif, parce que je pense que Bruxelles évolue dans la bonne direction. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises à disposition des entrepreneurs, par exemple, beaucoup d'aides, non seulement des aides vraiment plutôt informelles et de la guidance, en fait, qui est proposée, mais il y a aussi tout ce qui est financement, qui est aujourd'hui beaucoup plus accessible que ce qui était le cas même quand moi j'ai commencé. Et encore, moi, j'ai eu la chance d'avoir été aidée aussi par la région bruxelloise à plusieurs reprises.
Mais vous avez été auprès de ces outils publics qui sont là ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, j'ai envie d'être positive, et je pense que les gens sont conscients, en fait, à Bruxelles, on est conscient qu'il y a des choses encore à améliorer, on regarde ce qui se passe dans les pays voisins, on s'en inspire, et donc, voilà, je ne suggère que de continuer dans cette direction-là, de continuer à écouter les entrepreneurs et les autres acteurs, de continuer à progresser et à évoluer dans la même direction.
Merci beaucoup, Emna, en tout cas, de clôturer sur cette note d'encouragement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous suivre. Voilà qui clôture ce Trend Summer Talk. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Stéphane Sunville, CEO d'Athénor. Passez une excellente semaine.